ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. En ce début d'hiver, ça va faire du bien d'entendre un peu les cigales. Eh bien, des cigales, nous en avons dans cette interview. Aujourd'hui, je rencontre, toujours sur l'air des gens du voyage de Marseillan, au mois de juillet, je rencontre une gadji. Elle s'appelle Gaëlla Loiseau et elle est médiatrice départementale auprès des gens du voyage pour le département de l'Hérault. Donc, bonjour Gaëlla.
Bonjour.
Alors, je te laisse expliquer quelle est ta fonction exacte.
Eh bien, je suis médiatrice départementale auprès des gens du voyage dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault. Je suis embauchée par la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, et donc les ex-DDE, les services de l'État. Et je travaille avec la préfecture pour faire le lien entre les gens du voyage qui s'installent sur le département. Alors, en dehors des aires d'accueil...
Donc, ceux qui veulent se sédentariser
non,
ou...
justement, non, les gens qui voyagent. Donc, et je fais le lien aussi avec les collectivités. Donc, ma base de travail, c'est le schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Et c'est une fonction que tu as choisi de travailler avec les gens du voyage ou ça oui. T'est tombé dessus?
Ça, non, j'ai choisi, oui, j'ai choisi depuis oui. longtemps. Ouais.
Et ben alors pourquoi?
Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait toutes mes études en ethnologie sur les populations de Tziganes qui vivent en France, donc les gens du voyage. Et voilà, ça a coulé de source. J'ai répondu à une offre d'emploi après avoir fait ma maîtrise en ethnologie et puis un DESS, sociologie appliquée à l'intervention sociale. Et ça. Voilà, ça m'a... Bon, après, j'étais pas dans la région, donc je suis venu exprès dans la région pour ce travail.
Et alors, il y a les grands mots, médiatrice, etc. Mais pratiquement, ça consiste en quoi?
Ben, ça consiste à faire le lien, donc à échanger des informations, aller au contact, donc en gros, ça consiste essentiellement à rassurer les uns et les autres sur cette présence qui est vécue comme une intrusion par les collectivités, qui est vécue de manière très, très difficile aussi peut-être par les riverains. Enfin, les collectivités ont différentes pressions, notamment de leur population, de l'électorat, de tout un tas de gens qui ne comprennent pas en fait, ce mode de vie. Donc ça consiste à rappeler aux uns et aux autres que les gens du voyage ont des droits, que les collectivités aussi ont des droits mais aussi des devoirs. Bon, les voyageurs aussi ont des devoirs, mais dès lors que les obligations des collectivités ne sont pas mises en œuvre, ne sont pas remplies, eh bien, elles se doivent d'accueillir quand même les gens du voyage. Voilà, donc ça consiste à mettre en place le strict minimum qui est par exemple le raccordement à l'eau, le raccordement à l'électricité, le ramassage des ordures ménagères, voilà les bases quoi, d'un habitat, d'un mode de vie, de conditions de vie décentes.
Et d'arriver en fait à... est-ce qu'il y a... tu rencontres de grandes difficultés de la part des élus justement?
C'est les plus grosses difficultés que je rencontre, elles proviennent des élus. C'est essentiellement eux qui sont, qui déploient tout un panel de représentations qui sont véhiculées par les médias, qui sont sans cesse utilisées en fait, de part et d'autre pour décrédibiliser cette appartenance au monde du voyage, la rendre complètement, la criminaliser quelque part, quoi. Je veux dire, la rendre de toute façon illégitime, la rendre... faire en sorte qu'elle ne soit pas, qu'elle soit de toute façon rejetée. Donc c'est quelque chose qui est systématique, c'est-à-dire qu'on m'appelle, c'est Madame Loiseau, au scandale, les gens du voyage sont dans ma commune. Puis encore, j'emploie des mots soft, Donc on qualifie cette présence c'est de l'ordre de l'invasion, c'est de l'ordre de violation du domaine privé, violation même du domaine public, occupation sauvage, enfin voilà, tous ces mots-là sont récurrents, récurrents.
Puis, tous les a priori habituels.
Voilà, tous les a priori qui font qu'avant de penser en termes de loi, de droit, on pense en termes de représentation. Voilà, d'emblée pour créer un rapport de force en fait pour faire en sorte que qu'il y ait du conflit en fait. Et il y a aussi les élus qui agissent dans ce sens-là souvent, mais parfois ce sont aussi quelques individus, je dirais parmi aussi les forces de l'ordre qui vont avoir, tout le panel en fait des gens qui interviennent, vous voyez, les huissiers par exemple, qui viennent faire un constat, c'est jamais neutre. Leur positionnement, il est tout de suite souvent. J'étais hier, donc j'ai l'exemple en tête. L'huissier, il arrive, il était plus scandalisé que le maire, à la limite, quoi. C'était, donc il venait pour faire le constat, il était appelé par la commune. Le maire, ce qu'il voulait, c'était faire constater que le terrain qui était occupé, il y avait un certain nombre, par exemple, le grillage avait été dégradé à plusieurs endroits, donc les voyageurs, le maire, tout le monde souhaitait à ce qu'il y ait un constat d'huissier. On n'était pas là à lui demander de donner son avis sur cette occupation. C'est au maire de gérer ça. Et de suite, on était dans quelque chose de très... très provocateur en fait de sa part. Donc, je trouve ça complètement déplacé.
C'en est bien fini, nous ne verrons plus de l'Andalousie les gitans venus. La chemise ouverte sur leur peau brûlée, les roulottes vertes au milieu des blés. Et coquelicots, pavots arrachés, les grands calicots, place du marché. Le ciel se fait lourd, et les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers tziganes. Disparu l'enfant, voleur de cerceaux, les chevaux piaffants de tous leurs naseaux. Disparu les ânes avec leurs paniers, les belles gitanes sous les marronniers. En ce temps qui va dévorant, on n'a plus le droit d'être différent. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers tziganes. Plus de feu de camp près des HLM, révolu le temps des anciens bohèmes. Fini l'esplanade et les tambourins, les derniers nomades claquent dans leurs mains. Et la liberté, femme de gitan, tombe poignardée sous l'effet du temps. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers tziganes.
Et alors je suppose que par conséquence, il y a des réactions en face. Et là, comment ça se passe?
Non, Franchement, non. Les gens du voyage, ils sont habitués à tout ça. Même moi, hein, je veux dire, ça fait 9 ans que j'exerce cette fonction. Voilà, les gens du voyage, c'est quelque chose qu'ils ont complètement intégré. C'est-à-dire que le rejet, la stigmatisation... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la révolte. Il y a énormément de révolte, mais ils apprennent. Et c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chaque fois. Ils apprennent à se maîtriser. Vraiment. On n'est pas. Ils font tout pour éviter justement qu'on puisse leur jeter la pierre. Donc, par exemple, très souvent, ils s'installent sur un endroit bon, qui est laissé peut-être parfois à l'abandon, ou qui a été déjà occupé, qui a été où il reste des déchets. Bah, vous voyez, par exemple, les voyageurs, ils me disent écoutez, on a pris cet endroit, cette place, ils disent on occupe cette place, mais on a nettoyé tout ce qu'il y avait, et voilà, maintenant c'est propre. Et vous allez voir, quand on va repartir, ça va être plus propre que quand on est arrivé. Et même parfois, en discutant tête à tête avec les élus, ils vont reconnaître ce fait-là aussi. Mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas utiliser et dire en public, parce que ce n'est pas du tout porteur du point de vue électoral, du point de vue politique. Donc il y a toute une démarche politicienne qui est systématique, qui n'est pas le reflet de la réalité. Voilà. Et par exemple, les voyageurs, donc ce que les gens ne savent pas, parce que les médias ne s'emparent jamais de ces informations qu'on leur donne, c'est que les voyageurs, notamment dans le cadre des grands passages, ce sont les groupes qui arrivent, les missions évangéliques, qui arrivent à 50, 60, 100, 150, voire 200 caravanes, et qui s'installent ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont souvent, on va dire 80% des grands passages, ce sont des missions évangéliques, donc ils viennent pour prêcher l'évangile, ça fait partie du mouvement protestant, Vie et Lumière, ils font partie de la Fédération protestante de France, bon voilà. Et donc ces groupes-là, à partir du mois de septembre, ils envoient des courriers dans toutes les communes dans lesquelles ils souhaitent s'installer. Donc en fait, ils sont organisés en groupes, ils appellent ça des missions, donc il y a une mission qui va circuler, va faire tel parcours. Et ils vont envoyer à toutes les communes de leur parcours des courriers en disant voilà, on va arriver de tel jour à tel jour, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur le maire, nous mettre à disposition un terrain avec l'eau, l'électricité, un terrain enherbé avec l'eau, l'électricité, nous resterons donc mettons une semaine ou 15 jours et nous serons 80 caravanes par exemple, voilà, un courrier type, voilà, qui est envoyé. Et la plupart, donc 90% reçoivent aucune réponse, et quand il y a des réponses, elles sont à 90% négatives. Donc vous voyez, donc il y a une démarche, on va dire, qui est de l'ordre administrative, qui est entamée par ces associations gens du voyage, qui ne reçoit pas de réponse, donc ils sont obligés de se débrouiller avec ça. Ensuite, autre chose très importante que les gens ne savent pas, c'est qu'ils veulent payer. Donc la plupart du temps, ils proposent une contribution financière pour la mairie. La mairie, dans la grande majorité, moi à chaque fois, c'est quasiment systématique, elle refuse cette participation financière. Parce qu'elle considère que ça serait tolérer leur présence. En fait, ça serait... elles ne veulent surtout pas recevoir d'argent. Donc en fait, les gens du voyage, ce qu'ils font pour contourner ce refus de payer, ils vont faire un don dans les centres communaux d'action sociale. Voilà. Donc ils font un don, un leg à la commune pour l'action sociale, pour les pauvres de la commune, quoi, on va dire. Voilà.
Et tu interviens, toi, dans ces cas-là?
Oui, régulièrement.
Mais alors, t'es mis au courant par qui?
Je reçois tous les courriers, par exemple.
D'accord.
Moi, je fais le calendrier préalable qui est diffusé par la préfecture dans le cadre d'une réunion de préparation des grands passages. Donc c'est moi j'établis un calendrier, je sais que cette année on attendait 32 groupes, à peu près on avait des besoins d'installation en caravane de l'ordre de 4000 caravanes qui allaient avoir des besoins pour s'installer entre le mois de mai et le mois d'août. Donc c'est quand même assez important. L'année dernière on a eu 60 semaines d'occupation dans le cadre des grands passages et presque 2000 caravanes qui sont passées par les roues. Et on a eu 29 groupes qui avaient annoncé leur passage, donc j'avais prévu l'arrivée de 29 groupes et il y en a 26 qui sont venus. Donc voilà, tout ça c'est. Voilà, c'est mon travail quoi. C'est...
Oui, oui.
Voilà, non, donc c'est... on a des chiffres.
Quand tu t'es pointé sur la zone qui pousse au pied mon HLM, tu as garé ton vieux Savième près d'un pylône. T'avais rangé vos caravanes comme les chariots dans un western. Soudain dans ma banlieue minable, c'était moins terne. ta famille, tes chiens, tes mômes, tes cousins, tes frangins, tes boules. C'est comme une grande bouffée d'ozone quand ça déboule. Salut le gitan, salut ma douche, tu te souviens de moi, tu m'avais filé ton canif. Toi tu te prends toujours pour cartouche, moi j'ai toujours pas mon certif. Mario fait toujours le rémouleur, Angelo fabrique ses paniers. Moi je sais bien que dans ses petits métiers, pour faire son beurre, il faut avoir les à côté. Toi t'en as toujours eu un max, du genre qui font que quand t'es gaulé, eh ben tu casques. Tirer la bagnole à un cave, j'appelle pourtant pas ça un crime. C'est toujours aux bourgeois qui friment, tu les chouraves. Salut gitan, salut manouche, tu te souviens de moi, tu m'avais filé ton vieux peigne, cigarillo au coin de la bouche, t'as bien toujours la même dégaine. T'as toujours ton sacré clébard, croisement de bâtard avec bâtard. Tu voulais me le vendre un milliard, je les avais pas. T'as encore un nouveau tatouage, moi j'ai fait trois points sur la main, et je me suis fait percer l'oreille par un copain. Mais ça plaisait pas au dirlo, alors il m'a viré de l'école. Si je le croise dans la rue Smariole, je lui fais la peau. Salut le gitan, salut le manouche, tu te souviens de moi, t'avais failli me donner ta montre. Ma mère m'a dit que t'avais l'air louche, moi je me fous de ce que les vieux racontent. Si tu retournes bientôt au Beaumet, essaie de dire bonjour à mon vieux. Dis-y que j'ai retrouvé ses lunettes au-dessous de son pieu. Dis-y qu'il s'inquiète pas pour moi, son fiston c'est pas un gadjo. Dès que j'ai 15 ans, je trouve un boulot et je fais comme toi. Je me paye une vieille déesse ruinée, caravane et un clébard. Je laisse les cons dans leur clartier et puis je me barre. Salut gitan, salut manouche, tu te souviens de moi, tu m'avais filé ton canif. Toi tu te prends toujours pour cartouche, moi j'ai toujours pas mon certif.
Et alors, dans le cadre des interventions que fait Tania, t'interviens comment là ?
Non, mais là, j'interviens
pas. Parce que c'est
pas
tout à fait autre chose.
Oui, ça n'a rien à voir. C'est plus une démarche personnelle, c'est volontaire, c'est bénévole, c'est quelque chose. Moi, j'estime que les aires d'accueil, il faut qu'elles vivent. Si on veut qu'elles aient une existence pérenne, qu'elles vivent correctement, qu'elles soient respectées, que tout se passe pour le mieux. Et puis c'est la vision qu'a également Nora Boula, qui est ici aussi gestionnaire sur plusieurs aires d'accueil du département. On défend ça vraiment à fond à toutes les réunions qui consistent à conseiller les communes, qui consistent à mettre en place un dispositif d'accueil décent. Voilà. Donc dans ce dispositif d'accueil, il y a tout ce qui est volet social, mais moi j'insiste particulièrement aussi sur le volet culturel. Donc ce que fait Tania, c'est dans le cadre d'un échange culturel. Donc, après, si vous voulez, c'est aussi parce qu'on est en manque, il n'y a pas suffisamment, notamment ici sur Marseillan, sur la plupart des aires, c'est-à-dire que les voyageurs, ils n'ont pas accès facilement en fait, aux activités type centre de loisirs. Enfin voilà. Et puis bon, il y a aussi des transformations de l'ordre de l'interculturel à faire. Enfin, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les enfants, ils n'ont pas spécialement l'habitude d'aller en centre de loisirs, quoi. C'est pas quelque chose. Donc on essaye de créer quelque chose qui serait satisfaisant pour les enfants, c'est-à-dire un accès à la culture, au loisir. Et ça se fait. Ça fait la deuxième année qu'on le met en place ici à Marseillan. On l'avait fait en 2009 aussi. Tania était venue une semaine ici. Elle était venue une semaine à Lunel également. Et c'est super. Enfin, on avait fait des carnets, des petits carnets voyageurs qui avaient été présentés pendant le festival de Tau. Donc voilà, quoi, il y avait eu une petite exposition à la clé. C'était vraiment génial. Donc voilà, on a voulu redémarrer un petit peu ça. Et puis voilà, après on n'a pas les financements des collectivités pour ça. Hein. C'est vraiment, en l'occurrence, c'est la société gestionnaire là, de l'air qui a décidé que effectivement ça pouvait être une bonne chose aussi en termes de gestion finalement d'avoir quelqu'un qui vienne pour une semaine parce que ça aère un petit peu aussi, ça coupe un peu le rythme, vous voyez, ça crée autre chose quoi, tout simplement, sur l'air.
Oh, tu y allais ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la jeune fille ? La jeune fille aux yeux noirs qui le vent à la main descendait de l'Oural. La terre tremblait sur son cheval, le feu dans ses yeux, le ciel et le soleil, la nuit et les étoiles brûlaient dans ses yeux noirs. Oh, ti giorni, oh, ti strasni, oh, ti scotti.
Thank you.
alors, tu me disais que, en général, les élus, et pour des raisons électorales, on va dire, pour simplifier, sont pas très favorables à l'implantation des gens du voyage. Mais les préfets, en général, est-ce qu'ils ont une attitude positive ou négative ?
Alors, les préfets, ils sont entre le marteau et l'enclume. Enfin bon, ils sont. Les préfets, ils sont là pour appliquer la loi, en fait. La plupart du temps, je suis un peu ennuyée parce que c'est vrai que j'ai pas des contacts directs avec le préfet. Moi, j'ai contact avec le directeur de cabinet du préfet, donc très proche du préfet. Et là, ça dépend des personnes. C'est vrai que moi, j'ai eu affaire à... En préfecture, vous avez le secrétariat général, directeur de cabinet. Directeur de cabinet, il est responsable de tout ce qui est sécurité publique, volet répressif de l'État. Secrétariat général, c'est beaucoup plus large et c'est une vision plus globale de la mise en œuvre des politiques de l'État. Donc il fut un temps, j'avais des contacts avec le secrétariat général. Et pour moi, c'était très intéressant parce qu'on avait une vision globale de la mise en œuvre du schéma départemental. Il y avait un suivi un petit peu entre ce que font les collectivités en termes d'accueil et puis comment elles sont l'été particulier. Elles peuvent être, par exemple, envahies sur un stade. Enfin voilà, c'était bien d'avoir cette vision globale. La direction du cabinet... Sur le volet répressif, ils ne s'occupent pas du tout du schéma départemental, de la mise en œuvre. Eux, ce qu'ils intéressent, c'est occupation de domaine public, infraction. Donc, ils regardent simplement si la commune est en règle ou pas par rapport à ses obligations et ils appliquent la loi. Donc, la loi, c'est en gros, si une commune a rempli ses obligations, le maire est en mesure. Il demande en fait au préfet de prendre un arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les lieux. Donc il prend cet arrêté dans les 24 heures. Enfin, entre le moment où l'arrêté est pris, les voyageurs ont 24 heures en général pour quitter les lieux. Donc là, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris hier sur une commune du département. Et les voyageurs doivent partir ce soir avant 17 heures. Voilà. Et on est dans...
Et dans le cas où le maire n'a pas respecté ses obligations.
Rien. Enfin, il ne peut pas, normalement. Hein. Après, parfois, on a effectivement des. Je dirais pas des préfets, mais des. Par exemple, des sous-préfets qui sont un petit peu. Vous savez que les préfectures sont en plein remaniement. Enfin, il y a des. Voilà, il y a des bouleversements aussi. Il y a des réformes. Hein, des réformes de, en termes d'organisation des services de l'État qui sont en cours. Et les sous-préfectures sont menacées. Donc on se retrouve, enfin menacées de disparition, oui, très clairement. Donc on se retrouve avec des attitudes de certains sous-préfets, je pense, qu'on peut attribuer ça, on peut établir un rapport de cause à effet. Voilà, certains sous-préfets qui ont à cœur de défendre vraiment leurs élus. Vous voyez, donc ça fait. Donc parfois il y a un voilà, des sous-préfets qui vont avoir le procureur vraiment très proche pour appliquer des mesures pénales alors qu'elles ne sont pas, c'est pas la procédure légale de la loi Besson. La procédure pénale, elle est vraiment dans les cas ultimes où donc saisie des véhicules, mise en garde à vue des personnes. Et ben ici, on a un sous-préfet qui applique ça un peu de manière systématique et c'est... J'ai essayé de lui expliquer hein, que c'était pas ça normalement, mais bon, voilà. Après, c'est un sous-préfet, il décide... Voilà, il y a des particularités locales, on va dire.
Eh bien, écoute, c'est très bien tout ça. Je vais te poser une dernière question, parce que tu travailles donc avec les gens du voyage, et tu n'es pas issu de cette communauté.
Non.
Moi, donc au cours de mes émissions, il y a une question que j'essaye de poser systématiquement, parce que en découvrant ce monde, on me dit sans arrêt que le monde des gens du voyage, c'est comme chez les gadgets, il y a les bons, les moins bons et puis les mauvais. Mm-hmm. Mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent. Donc, je voudrais savoir si toi, tu trouves qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ?
La chose fondamentalement différente, c'est le rapport à l'espace, le rapport au territoire. c'est considérer que comment dire, que, enfin, c'est même pas spécialement la notion de propriété privée, parce qu'elle arrive un petit peu petit à petit aussi à gagner un petit peu les voyageurs à force, mais quand même c'est considérer que on puisse traverser un territoire communal, pouvoir y arriver, enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est très, très basique en même temps comme truc, mais je trouve que c'est quelque chose de très important. Ce qui est fondamentalement différent, quelque part, pour moi, c'est que les voyageurs, comment dire, sont, comment dire, au cœur de... Il y a un conflit latent, bien entendu, sédentaire, nomade, et quelque part, ils sont là pour nous montrer quand... quand tout commence, enfin ça peut dysfonctionner à tout moment. C'est-à-dire que dès lors qu'ils pourront plus voyager, moi c'est ce qu'ils me disent très souvent. Hein, en fait, ils sont une espèce de, ouais, je trouve pas les mots, mais ils peuvent donner l'alerte sur quelque chose qui dysfonctionnerait du point de vue de la démocratie. Ou, enfin voilà, on va employer les grands mots, mais voilà. Donc quelque part aujourd'hui, on en voit tous les signes. Hein, c'est-à-dire que je sais pas. Hier, la presse a dévoilé les propos d'un député maire dans la région du Maine-et-Loire qui faisait clairement état de son regret de ne pas que Hitler n'ait pas fini totalement le travail, donc son boulot. Non, mais c'est très très. On est dans des choses très très graves, très très graves. Moi, je suis assez inquiète, je vous avoue franchement, sur tout ce qu'on entend actuellement, Estrosi, moi j'ai eu des maires ici qui se sont lâchés aussi en termes de propos, des appels, des incitations à la haine. Cette année, ça a été assez violent. Voilà, donc pour moi, ce qui est fondamentalement différent, c'est qu'ils ont un rôle, ils occupent une place dans la société qui est une place symptomatique d'un bon fonctionnement entre les uns et les autres, ou de dysfonctionnement. Ils sont le signal de malheureusement, et victimes en même temps de la tolérance ou de l'intolérance. Ils sont le fil rouge. Et ça, c'est quelque. Ils en sont conscients. J'admire quelque part cette force qu'ils ont de maintenir ce mode de vie dans une société qui fait tout pour éradiquer ce mode de vie. Voilà, c'est ça qui est, que je trouve fondamentalement différent. Il y a quelque chose, une force à vouloir exister dans un mode de vie qu'ils veulent assumer ou dont ils ont hérité. Donc voilà, il y a quelque chose qui se joue, qui est très fort, je pense, pour eux, quoi. Mais quelque part, qui est très fort pour nous aussi. Moi, personnellement, c'est très fort pour moi de voir ces caravanes circuler. Et de les voir, de savoir qu'elles puissent s'installer, et de savoir que ce rapport avec les sédentaires, il puisse exister. Donc, si ce rapport, on le perd, et si on s'amuse à faire que des aires clôturées dans lesquelles ils n'auraient que le droit d'être et pas ailleurs, moi, c'est pas mon idéal de société, hein, c'est clair. Moi, je préfère encore continuer à exercer mon rôle de médiatrice et puis voir des installations temporaires. Voilà, ça peut paraître choquant pour les élus, hein, mais je préfère.
Mais, je vais dire un truc là. Si je comprends bien, quelque part, cette découverte, puisque à un moment donné, ça a dû être une découverte pour toi, cette société des gens du voyage. Mm-hmm. T'as apporté quelque chose.
Ah bah oui, forcément, puisque ça fait maintenant 15 ans que je les côtoie, donc oui, ça m'apporte au quotidien, ça m'apporte des convictions tout d'abord. Voilà, c'est des convictions convictions de des valeurs en fait. Voilà, c'est plus des valeurs que des convictions politiques d'ailleurs. Hein. C'est des valeurs d'un, voilà, je vous dis, un modèle de société, quelque chose qui serait, moi pour moi, sur chaque territoire, il serait logique de prévoir un point d'eau, enfin comme il y avait avant, quelque part, un peu les fontaines à l'ancienne, voilà, avant, bon, ça n'a jamais été facile, hein, le rapport entre sédentaires et voyageurs, mais en même temps, ils ont toujours cherché dans la négociation, dans le lien, la négociation. Et cette négociation, elle est fondamentale pour eux et pour nous. C'est-à-dire que s'il n'y a plus ce lien, c'est-à-dire si est tout géré à l'avance, c'est ce que cherche à faire la société sédentaire. Ça, eux, ils auront là, direct, si on pouvait les téléguider directement sur les airs et où ils ont le droit d'aller, mais je pense que le voyageur, il ne va pas s'y retrouver, en fait. C'est-à-dire le nomadisme, il perd de son essence, c'est-à-dire de... voilà, donc après c'est compliqué à expliquer, mais c'est un rapport au territoire, voilà, que je trouve. Et voilà, moi personnellement, ben, je trouve que c'est très important, voilà, je répète un peu la même chose, dans notre société, d'avoir des gens qui continuent de résister. Il y a une résistance, oui, il y a une résistance raisonnée. Voilà, moi je trouve qu'ils sont vachement raisonnables, il n'y a jamais d'excès. Franchement, en tout cas depuis, peut-être aussi depuis que le mouvement évangéliste est passé par là, voilà, il y a eu un apprentissage de la, ce qu'on appelle de la représentativité qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'ils ont appris à parler au nom d'eux. Et ça a vachement apaisé aussi les conflits. Les élus vous le diront, hein, vous interrogerez n'importe quel élu, il préférera avoir affaire à un pasteur évangélique à n'importe quel voyageur qui ne saura pas bien et qui s'engagera que pour lui. Avec les pasteurs, en général, ils sont prêts à parler au nom d'un groupe, parfois très important. Et ça suscite quand même du respect pour les élus. Parce qu'en fait, et pour la préfecture, hein, les forces de l'ordre, ils ont tout intérêt à discuter, à entendre et à faire en sorte que ces pasteurs agissent dans le sens d'une paix sociale. Hein, donc tout le monde s'y retrouve autour de ce mouvement évangélique. Et c'est pas pour rien finalement si le gouvernement distribue chaque année une circulaire, diffuse chaque année une circulaire de préparation des grands passages, où le mouvement évangélique, sans le nommer, mais c'est le mouvement évangélique qui est mis en avant sur son modèle de fonctionnement, avec les courriers envoyés à l'avance, les modèles de conventions à signer, les responsables de tous les pasteurs en fait, avec leur numéro de téléphone, tout ça c'est envoyé quand même par le ministère de l'Intérieur à tous les préfets. Donc bon, c'est quand même un signe. Voilà.
Eh bien écoute, Gaëlla, je vais te dire un grand merci.
De rien, voilà.
Ah ben, si.
Ben voilà, j'espère que vous aurez appris des choses.
Ah mais moi, le but de cette émission, c'est effectivement qu'on apprenne des choses, quoi, et qu'on arrive à casser tous ces clichés, tous ces a priori. Quoi.
Ouais, ouais, ben merci de m'avoir donné la parole alors.
Eh bien, encore un grand merci à Gaëla de nous avoir livré ces informations d'une manière si honnête. Eh bien, comme d'habitude, je vais vous dire l'atchodrome et comme d'habitude, je vais vous dire deux petits textes pendant le générique de fin. Ces textes ont été écrits par un Rome polonais dont le nom est Stanisław Stankiewicz. Ah, pas facile à prononcer les noms polonais. Le premier texte a pour titre « J'ai dansé avec le vent ». J'ai donné rendez-vous au vent dans le bois. Il est venu de bon cœur et tout a dansé. Les arbres altiers ont dansé et les fourrés. Le vent a dansé près de nos tentes. Il m'a saisi par les cheveux, par les bras. Je danse avec le vent et les arbres surpris regardent leur homme si vif danser avec le vent et au son de sa chanson tous battent des mains. Dans sa danse, leur homme ne touche plus terre tant il fringant a sauté avec le vent. Et leur homme et le vent dansent des pas de zigane, tous deux invitent tout le monde à la ronde. Dans la forêt, tout s'est mis en branle, les arbres et les fourrés et nos tentes. C'est la danse romanie qui sait le mieux le vent et il invite tous les Roms à la danse. Le deuxième texte a pour titre « Mon rêve ». Dans mon rêve, je m'envole bien haut, tel un oiseau, je bats des ailes. Je regarde tout en bas les eaux, les bois, les champs dorés d'avoine. Dans mon rêve, c'était si beau, je ne suivais pas des routes pénibles. Aïe, j'étais vraiment heureux, tout là-haut avec mes oiseaux. Je suis descendu, j'ai vu les Roms. Personne ne m'a accueilli en frère, et je n'ai pas trouvé de Rome pour échanger avec eux des chevaux. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui arrive aux gens maintenant sur terre. Les Roms ont oublié le code d'honneur, le vent a emporté la dignité romanie. Quel poids j'ai sur le cœur, mais ils n'écoutent pas les appels. Je ne confie à personne ce qui ronge mon âme. Je pousse au Seigneur des soupirs poignants. Ce qui me fait si mal, je ne le dis pas. Pourquoi continuer cette vie de pleurs? Il vaut mieux que je redevienne oiseau. J'ai retrouvé mes amis, mes oiseaux, volant par le monde, avec eux je voyage. Là-haut, tout là-haut, avec eux dans le ciel, je chante une chanson romanie.